19. Oui, avant de commencer la lecture, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a des visiteurs, des gens de passage? Je vous présente deux sœurs qui nous viennent, donc elles sont équatoriennes, mais elles nous viennent d'Espagne, de Valladolid. Alors, il y a Martha, c'est ça? Vous voyez Martha en rose. Et à côté, j'ai pas retenu le prénom. Alexandra, voilà. Donc, nos sœurs, elles travaillent à Beaucaire, elles sont pas très loin. Et puis, elles m'ont dit, quand on ne travaille pas, bien, on vient. Voilà. Que Dieu les bénisse au milieu de nous et que nous puissions nous faire du bien mutuellement. Amen. Voilà le psaume 19. On va lire le verset 8 et le verset 9. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Rien que là, hein, on pourrait s'arrêter et dire un grand merci au Seigneur. Alors, j'aimerais voir avec vous quelques raisons pour lesquelles, eh bien, il est bon pour l'homme de se placer, hein, de se placer lui-même sous les bienfaits de la parole de Dieu. Et c'est un petit peu le titre ce matin. Pour ce faire, je vais utiliser premièrement, après on ira un petit peu plus loin, mais des choses de la nature. Vous voyez, des choses qui nous sont indispensables, je dirais, ou nécessaires dans des domaines qui sont propres à chacun d'entre nous. Nous avons besoin, moi j'en ai besoin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin, eh bien, d'y voir clair et de pouvoir marcher à la lumière de l'Écriture. Alors tout d'abord, ces bienfaits sont comparables à du pain. On a pris le pain tout à l'heure, hein? Voilà. Jérémie, chapitre 15, verset 16, il dira ceci: Tes paroles se sont trouvées devant moi, je les ai dévorées. Amen. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Voyez, vous avez une autre version. Alors également, ils sont comparables à une eau fraîche. Pour quelqu'un qui meurt de soif, hein, c'est important, surtout l'été. Hein. Qu'est-ce qu'on consomme, hein? Eh oui. Proverbe 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme de l'eau fraîche. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, pour une personne assoiffée. Quel bonheur que de boire de l'eau qui est fraîche. Amen. Également, ils sont comparables à de la pluie ou de la neige. Vous savez qu'ils fécondent lorsqu'elles descendent, fécondent le sol tout simplement. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès, pardon, ce pourquoi je l'ai envoyé. Vous voyez, il y a un but. Dieu envoie sa parole, mais on va le voir tout à l'heure aussi, dans le but qu'elle soit reçue. Amen. Qu'elle soit, excusez-moi, mais avalée et digérée. C'est-à-dire qu'elle soit vécue. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors, ce texte a aussi besoin de se comprendre en relation avec le Seigneur, avec Jésus, hein, notre Sauveur, hein, la parole faite chair. On sait que lui est sorti de Dieu. Amen. La parole sort de lui et également le retourne à lui après avoir accompli sa volonté. Et je dirais, en étant allé jusque à la mort de la croix, il a choisi le sacrifice expiatoire pour que moi je vive et pour que nous vivions, bien sûr. Ils sont également comparables à du miel, hein, sur une gorge irritée. Quand vous avez la gorge un peu irritée, prenez du miel. Moi, j'en fais une consommation importante. Ça fait des années que je sucre au miel. Sucre naturel, hein. Donc, je n'ai pas tardé, je ne suis pas parti de la Savoie sans prendre du miel de là-haut. Parce que c'est bon le miel, hein. Amen. Alors, le psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Vous rendez compte? Pourtant, le miel, c'est doux, hein? Eh bien, plus que le miel à ma bouche. Tes paroles, elles sont douces à mon palais. Amen. Également, sont comparables à un butin découvert par quelqu'un qui est ruiné, qui n'a plus rien. Psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. On n'a pas découvert la perle de grand prix avec Jésus? Eh oui. J'ai dit que celui qui l'a découvert, il vend tout pour justement l'acquérir. Hein. Également comparable à de la semence sur un terrain qui ne demande qu'à porter du fruit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Béni soit Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons le même Père. Et selon sa miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Et nous faisons partie de l'Église vivante du Seigneur. Nous sommes un corps. Un corps, sa vie. Alléluia. Ils sont également comparables à de la lumière qui jaillit dans les ténèbres. Psaume 119, verset 105, vous le connaissez. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans l'obscurité, si vous n'avez pas de lumière, vous risquez qu'une chose, c'est de tomber. Et vous allez heurter quelque chose par terre, vous allez vous retrouver dans un trou et vous perdez l'équilibre. Vous allez vous tendre une cheville. Ça arrive, hein? Voyez? Ou vous faire mal à l'épaule parce que vous allez vous retenir. C'est les gestes qui sont là, bien sûr. Mais ta parole est là. Et pour marcher dans la vie de tous les jours, pour éviter justement de chuter, de tomber, de prendre une racine ou que sais-je encore. Et ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Comparable également à du feu qui réchauffe et qui consume ce qui est nuisible et qui justement a besoin d'être détruit. Amen. Jérémie 23, verset 29. Ta parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu. Oh, vous savez ce qu'elle va faire? Est-ce qu'on va faire l'action du Saint-Esprit lorsque sa parole justement vient jusqu'à nous et que nous sommes condamnés parce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Eh bien, elle va consumer ce qui est mauvais. Amen. Pas ce qui est bon de la parole de Dieu, pas ce qui est bon finalement de ce que Dieu a déversé en nous, mais tout ce qui est mauvais va être consumé. Alléluia. Et puis, s'il y a encore des restes, le marteau va briser. Toute résistance, bien sûr, hein. Parce que c'est ça le rôle de la parole de Dieu. Alors quelles sont les raisons et à ces effets particulièrement riches, bien sûr, variés et efficacement bons? Si l'on considère la parole de Dieu en tant que message écrit, eh bien son efficacité vient de son inspiration. Littéralement, elle est soufflée hors de Dieu. Elle est soufflée hors de Dieu. Il n'y a pas, vous savez, de mélange. C'est le souffle de Dieu qui nous la donne. Alors bien sûr, son but salutaire et son contenu, c'est que nous la recevions. Non pas en disant ou en discutant, non, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Et je dois le prendre, je dois le recevoir et je dois tout faire pour vivre ce que Dieu me dit. Ce passage de la deuxième lettre à Timothée résume un peu tout, de Timothée 3,15. C'est Paul qui dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Pas dans la justice d'ici-bas. Vous avez vu, normalement c'est une balance. Mais souvent la balance a des problèmes avec l'équilibre pour rendre vraiment la justice. Suivant si tu es riche ou pauvre, suivant si tu es bien défendu ou pas, ce ne sera pas pareil. Oui. Mais pour instruire dans la justice de Dieu, on peut rajouter. Et là, on ne fausse pas le sens du texte, bien sûr. En français courant, ça se traduit comme ça. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Amen. Moi, je me mets à la place d'un converti, je me mets à la place également eh bien, de l'inconverti. Je dis l'inconverti auprès d'un converti. Il doit faire bon vivre, hein, ne croyez pas. Hein ? On travaille à côté d'un chrétien. Je suis inconverti. Mais pétard, je sais que lui, il me dira toujours la vérité. Amen. Je sais qu'il ne trichera pas. Je sais qu'il ne sera pas derrière mon dos pour m'en mettre une. Non, non. C'est bon que de vivre avec des chrétiens. Parce que c'est ça. Hein, on applique notre cœur justement à vivre la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair, c'est Jésus, hein, c'est le Fils de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On saute quelques versets, on arrive au verset 14. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus, notre bien-aimé Seigneur, la parole faite chair, elle habitait parmi nous. Elle habite lui parmi nous. Ah si qu'elle habite parmi nous. Jésus est présent au travers de son esprit ici. Alors, cette préexistence éternelle de la parole en tant que Jésus, hein, le Fils unique devenu du Père, a bien sûr précédé la communication du livre écrit, appelé à juste titre également, eh bien, la parole de Dieu. Nous avons ouvert la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel livre, hein. C'est le livre le plus vendu au monde. Je ne sais plus dans combien de versions. Je ne sais plus quel nombre a été encore vendu aujourd'hui. Eh bien, de Bible, de parole de Dieu. Magnifique. Parce qu'il y a des auteurs que nous présentons à la télévision, parce qu'ils ont un best-seller, parce qu'ils écrivent un roman, parce qu'ils écrivent un policier, etc., etc. Et ils sont à l'honneur. Pourquoi le Seigneur ne passe pas à la télé? Pourquoi on ne présente pas son livre à la télé alors que c'est le best-seller? C'est la parole de Dieu. En tout cas, la parole faite chair a toujours été, hein, Jésus a toujours été dès le commencement. La Bible, la parole faite livre, finalement, elle a été révélée, transmise aux hommes progressivement, mais c'est son contenu qui va lui conférer son caractère efficace et ce caractère restaurateur. Il restaure mon âme. Amen. Oh, il me libère. Je suis au contact de la vérité et je le sais. Amen. Je sais que c'est, je ne vais pas être déçu. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Son contenu est Jésus, le Christ lui-même. Il est le germe de la semence, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence, de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Est-ce que nous ne sommes pas le fruit, le résultat de l'écoute de la prédication de la parole de Dieu, de la lecture? Amen. De la méditation de la parole de Dieu. Où est-ce qu'ils sont les plus beaux à Arles aujourd'hui? Eh oui, je suis rendu beau par la parole de Dieu. C'est-à-dire que mon cœur, mon âme, totalement transformée, visitée par l'Esprit de Dieu, hein, parce que la parole de Dieu va rendre vivante également, et bien quelque part, c'est une nourriture. Je suis beau. C'est pas de l'orgueil, hein? Mais c'est la vérité. Eh oui. Zacharie lui aussi parle du germe. Écoutez un petit peu ce qu'il dit, hein? Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Amen. Les hommes serviront de signe. Notre vocation? C'est servir de signe. Amen. C'est de montrer aux hommes Elle leur faire voir, faire découvrir qu'il y a quelque chose d'autre que ces choses terre à terre. Amen. Bien sûr, je vis les pieds au sol, mais j'ai un peu la tête dans le ciel. Parce que qu'est-ce que c'est bon d'être chrétien? Qu'est-ce que c'est bon d'être enfant de Dieu? De profiter des bénéfices, j'ai dit, de la parole de Dieu. Amen. Troisième chose, qu'est-ce qui rend les effets de la parole de Dieu bienfaisants? Quand nous parlons des bienfaits hein, qui découlent de l'action de la parole de Dieu, sous les effets de laquelle nous voulons nous placer, eh bien nous parlons essentiellement du fait de recevoir le message qu'elle contient. Amen. Pour ça, je disais tout à l'heure, ne discutons pas la parole de Dieu. Ne discutons pas l'Écriture. Vivons-la. D'abord, recevons-la pour la faire vivre en nous. Amen. Dans Luc chapitre 11, versets 27 et 28, Jésus va dire à cette femme qui lui disait « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse des mamelles qui t'ont allaité. » Il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est ce que dit Jésus. Amen. Elle croyait faire un exploit en disant « Allez, formidable, heureux le sein qui t'a porté. » Je pense qu'elle était heureuse de porter hein, un tel personnage. Amen. « Heureux les mamelles qui t'ont allaité, mais toi plutôt. » Hein, sois heureux si tu écoutes la parole de Dieu et si tu la gardes. Amen. Acte 12, qui nous relate l'épisode de, où Pierre est libéré de la prison d'Hérode, bien sûr. Il avait été arrêté parce qu'il annonçait l'évangile. Voyez un petit peu, ça peut nous coûter cher. Hein, eh oui. Alors, il l'a fait, l'annonce de l'évangile, bien sûr, il l'a fait alors qu'il y avait une pression terrible exercé par le Sanhédrin, qui voulait justement faire taire les disciples de Jésus, empêcher-leur de parler. Et Pierre, il est allé à l'encontre. Mais finalement, il savait. Il savait que celui qu'il avait appelé à parler en son nom, eh bien, serait fidèle et qu'il le garderait. Amen. Et ça n'a pas empêché, regardez un petit peu, parce que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante. On ne peut pas, quelque part, la cloisonner, ni, quelque part, l'interrompre. Il nous dit que cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus, acte 12 verset 24, et le nombre des disciples augmentait. Fais les terres. Ah, oh, il y en a encore plus de ce côté. Allez, va de ce côté et fais les terres. Mais il y en a encore plus de là maintenant. C'est les effets de la parole de Dieu. Elle convainc les hommes de péché, de justice, de jugement. Elle nous donne la vie. Amen. Plus loin, il nous dit qu'en entendant Paul parler de Jésus et du royaume de Dieu, les païens se réjouissaient. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Acte 13, verset 48. Vous voyez, elle continue son œuvre, la parole de Dieu. Elle est vivante. Alléluia. Elle a passé des siècles, elle passera encore. Peut-être des siècles, hein, si le Seigneur revient dans quelques temps. Hein? Dans Acte 19, verset 18, nous voyons qu'à Éphèse, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alors, j'ai pas fait l'équivalent, mais ça paraît important. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez, on ne parle pas des prédicateurs, des porte-paroles. Mais il est question de la parole de Dieu qui grandit, qui manifeste sa puissance. Cette puissance, c'est de convaincre. C'est d'apporter aussi la guérison, parce que moi, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Formidable. J'ai ce trésor en moi. Mais vous aussi, hein. C'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, j'aimerais voir quelques exemples de situations significatives. Premièrement, la parole de Dieu, elle crée la conviction de péché. Néhémie, chapitre 8, verset 9. Néhémie, gouverneur, Esdras, sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils découvraient, à la lecture de l'Écriture, qu'ils étaient à côté de la plaque, qu'ils n'étaient pas dans le chemin de la vie, dans le chemin que Dieu avait finalement tracé pour eux. Alors la conviction de péché, eh bien c'est la révélation de la situation de mort spirituelle de tout homme par rapport à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va la créer. Amen. Il va utiliser son épée, qui est la parole de Dieu. Cette épée à deux tranchants. Et oui. Alors, quand elle est prêchée avec fidélité, eh bien, elle produit cet effet indispensable au salut. Elle joue alors le rôle de lumière qui va dévoiler justement la tragédie de l'état de l'homme, bien sûr, de l'état de son cœur. Elle montre l'incrédulité, l'insoumission, la rébellion, la corruption, eh bien, de l'homme pécheur qui est perdu s'il n'a pas la foi en Jésus. Et il est perdu, irrémédiablement perdu. Amen. L'enfer, ce n'est pas de petite histoire pour nous faire peur. Hein. L'enfer, il existe. Qui veut y aller en enfer? Non, bien sûr que non. Hein. Alors, c'est la raison pour laquelle certains, qui sont trop orgueilleux pour admettre cet effet, hein, qui les humilie, je dirais, d'une manière bien manifeste, hein, c'est comme cela, bien, ils vont tenir le discours de ceux qui se sont soustraits volontairement à l'enseignement du Seigneur. Je lis Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Sous-entendu, moi je ne veux pas l'écouter. Eh oui. Nous avons également l'exemple bien connu du jeune homme riche, hein, de Matthieu 19, verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus lui avait dit, vends tous tes biens. Distribue-le aux pauvres et suis-moi. Il aurait bâti un trésor plus grand dans le ciel. Vous voyez? Mais non, il est parti tout triste. Et alors ma deuxième chose, c'est que la parole de Dieu apporte des réponses. Luc, chapitre 2, verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alors je rappelle tout simplement que Jésus n'avait à ce moment-là que 12 ans. C'est précoce, hein? Mais c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il n'avait pas encore commencé son ministère public. Et que déjà, eh bien, il reprenait les leaders, les enseignants, hein, les chefs religieux. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Alors, nous ne savons pas d'une manière précise ce que dit Jésus à ce moment-là, hein, de sa vie, mais pouvons le supposer, hein. Parce que je pense qu'il devait déjà communiquer à ceux qui se plaçaient sous son enseignement des réponses sur Dieu, tout simplement sur sa nature, sur Dieu et sa relation avec l'homme, sur Dieu et son amour bien sûr, sur Dieu et sa justice, sur Dieu et le salut, sur Dieu et sa puissance, et j'en passe. Vous voyez? Il parlait de son Père. Amen. Il devait aussi donner des réponses sur la condition spirituelle de l'homme. La nécessité du salut de son âme, l'importance de la repentance, de la conversion. Amen. Il devait en parler de tout cela. Puis quand il parlait de Satan, il en parlait avec vérité et il disait à propos. Hein. Et tous ces éléments eh bien, vont constituer plus tard le contenu de son enseignement. Ce de quoi nous entretenons aujourd'hui encore. C'est d'ailleurs ce qui fera beaucoup parler à son sujet. Hein. Luc 4, 22, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Vous voyez? On a été à l'école avec lui. On a joué avec lui. On a marché dans la rue ensemble, t'as baigné ensemble. Vous voyez? Eh oui, c'est lui, mais eh oui, ils étaient étonnés. Jean chapitre 7, verset 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme, alors qu'on les avait envoyés arrêter Jésus pour le ramener, justement. Hein. Marc chapitre 1, verset 22 nous dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Amen. Il y a des exemples de situations significatives dans la vie et le ministère des apôtres, parce qu'eux aussi ont été placés au bénéfice tout simplement des bienfaits de la parole de Dieu. Ils l'ont vécu, ils ont été remplis, et ensuite il l'a dispensé. Il se passait des choses formidables. Le Seigneur avait parlé de ceux qui croiraient en lui, tout simplement par leur parole. La prédication, eh bien, elle apporte la conviction de péché. Je reviens là-dessus, mais c'est le béaba. Hein. Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu cela, dans le message, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que vous deviendrez la demeure de Dieu en esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu viendra habiter en vous. Amen. Alors, touchés dans leur conscience spirituelle, eh bien, les auditeurs du message de Pierre ont été convaincus de péché. Ils ont fait comme moi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré sur mon péché. J'ai pleuré parce que j'avais compris que j'avais fait mourir Jésus sur le bois de la croix. J'ai pleuré. Eh oui. Alors, il ne faut pas confondre cette expérience, qui est indispensable, bien sûr, au salut, avec la culpabilisation malsaine qui est parfois créée par notre propre nature ou soit par des personnes qui, eh bien, sentant quelques fragilités, vous savez, de manière psychologique, eh bien, vont l'exploiter, vont l'utiliser à des fins de manipulation ou pour eh bien, renverser des situations, pour s'éviter justement eux-mêmes de reconnaître leur propre état de péché. Se dédouanent. Hop. Alors, ils affectent, par exemple, d'être offusqués. Ils feignent d'être les offensés alors qu'ils sont coupables d'être justement eh bien, des offenseurs. Amen. Les personnes convaincues de péché, sous les effets justement de la prédication de l'Évangile, eh bien, elles deviennent désireuses de savoir ce qu'il faut faire. Que ferons-nous ? Mon frère, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause du pardon de leurs péchés, etc. Alors, c'est cette disposition ainsi créée qui permet de conduire quelqu'un au salut. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire, « Allez, qu'est-ce qu'il faut que je te donne pour que je sois pardonné ?» Ou pour que Dieu me pardonne ?»« Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie ?» Non, tu n'as rien à donner, simplement ton cœur. Simplement ce que tu es. Amen. On a dit en Actes 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, elles furent rajoutées environ 3000 âmes. » Amen. La prédication apportant le salut. Acte 13, verset 48. Les Parisiens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc il y a des gens qui sont destinés. Mais avant de vous convertir, est-ce que vous saviez que vous étiez destinés au salut ? Non. Alors pour ceux qui prennent des risques, « Ouais, mais si je ne suis pas destiné !» Ben c'est grave, hein, parce qu'aujourd'hui, vous seriez à côté, hein, mais pas là. Alors je ne savais pas que j'étais destiné, moi. Bon, aujourd'hui, je le sais. Hein. Et je ne veux pas me taire, hein, je veux au contraire annoncer. Hein. Amen. Alors il n'y a, je dirais, que l'annonce de l'Évangile qui peut produire, je dirais, cet effet. Il n'y a qu'elle qui puisse communiquer cette révélation, la parole de Dieu. Elle me dit la vérité. Je peux être offensé. Hein? Parce que, est-ce qu'on aime entendre ces vérités? Quand elles sont bonnes, oui, ça va. Là, t'es quelqu'un de bien, t'es formidable. Marc, t'es formidable. Vous voyez? Et si je lui dis, Marc, tu vaux rien. Oui, il a le sourire, mais c'est pas le même. Regardez, il rougit. Ben oui. Hein? Quand j'étais dans les pompiers de Paris, excusez-moi, je fais une parenthèse. Pour vous dire, c'est la plus belle, c'est la... C'est l'école la plus dure des pompiers de Paris, il puisse y avoir. C'est limite légion. Ouais. On disait, vous n'êtes pas des cajots, vous êtes des wagons de cajots. C'est le truc qui me revient là, vous voyez. Pour vous dire, vous n'êtes pas à crème, hein, vous êtes en dessous là, complètement. Hein, vous valez rien. Mais oui, mais on nous perce à jour, vous voyez. Parce que quand tu es sur une intervention, il ne faut pas que tu lâches. Il ne faut pas que tu lâches le reste de l'équipage. Il faut que tu sois à la hauteur. Ça va plus encore. Vous voyez. Et c'est comme ça, c'est des vies à préserver. Hein. Amen. Alors, la prédication apporte aussi la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Eh oui, vendredi j'en parlais, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Ce baptême d'en haut, ce baptême de feu ? Eh oui, il faut le rechercher. Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tiens donc, il n'y a pas eu de la manipulation ? Eh oui. Ça fait un jour, j'ai entendu qu'on peut recevoir un autre esprit que l'esprit de Dieu. Si on est converti, si on est lumière, on ne peut pas recevoir l'esprit des ténèbres. D'accord ? Ou alors il y a la falsification sur la conversion. Mais quand on est lumière, on peut recevoir que l'esprit de lumière. Amen. L'esprit de vie, le Saint-Esprit. Hein. Alors, également, par rapport à ce texte, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Eh bien, il faut remonter plus haut pour connaître, je dirais, la disposition de cœur des auditeurs. Si le Saint-Esprit est descendu, c'est parce que eh bien, les auditeurs étaient ouverts, disposés à recevoir, prêts à entendre. Amen. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher, toi, Et tu as bien fait de venir maintenant, dont nous sommes tous ici devant toi, pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Amen. Et quand on a des cœurs ouverts comme ça, quand on a ce désir, cette soif de recevoir la parole de Dieu, bien, il se passe des choses. Amen. Mais là aussi, il faut aussi admettre que l'instrument communiquant le message, ayant été affranchi de ses préjugés, raciaux, mais également religieux, il s'agit de Pierre, eh bien, quelque part, a été comme un canal de bénédiction. Amen. Hein? Il a été, lui, le canal. Et puis voilà que l'eau qui est passée par ce canal, eh bien, elle a apporté la vie. Hein? Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Parce que Dieu lui avait appris à regarder les hommes sans a priori, ni jugement, de valeur non fondée, etc. Alors pour respecter l'ordre spirituel, les expériences chrétiennes, il faut dire que ces personnes ont d'abord cru, elles ont reçu le salut par le pardon de leurs péchés, par la foi en Jésus-Christ tout simplement, et immédiatement après, sans que, je dirais, il soit humainement possible de percevoir d'une manière consciente ce laps de temps, je ne sais pas combien de temps, eh bien, elles ont été baptisées dans le Saint-Esprit sous les effets justement de ce que Pierre était en train de dire de la part de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce sont les effets ou les bienfaits des effets de la parole de Dieu. La prédication également apportant la foi et la guérison. Amen. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Amen. Gloire à Dieu. Vous n'auriez pas aimé assister à ce moment particulier? On ne peut plus le vivre, ça. Hein? On ne peut plus, hein? Mais si. Mais si, moi j'ai vu paralytique se lever. J'ai vu le sourd entendre. J'ai vu la muette parler. Je l'ai vu, moi, de mes propres yeux. Mais c'est des gens simples qui étaient prêts à recevoir, qui voulaient entendre la parole de Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'on peut limiter justement ce qui se passe dans le cœur des personnes qui écoutent la parole de Dieu avec foi? Non. Je me rappelle mon épouse, toute jeune convertie dans une église où elle est née, où elle a démarré sa vie spirituelle. Il y avait des personnes qui faisaient blocage contre le pasteur. C'était difficile. Vous le connaissez, ce pasteur, hein? Non? Qui? Jean Verdier. Et bien malgré ça, les jeunes convertis, les petits agneaux, les petites Danielles, eh bien, le sont gardés, préservés. On ne peut pas limiter l'action de la parole de Dieu, même si on s'y oppose. Eh oui! Alors la parole de Dieu et les bienfaits, je dirais comme une eau, qui non seulement vont désaltérer l'âme assoiffée, mais également qui va laver aussi tout ce qui encombre justement l'être intérieur. Hein. Et il envoya sa parole, et les guérit, et il les fit échapper à la fosse. Amen. Les mêmes choses se produisent toujours, je dirais produisent toujours les mêmes effets. L'efficacité de la parole de Dieu ne s'est en rien altérée avec le temps. Les mêmes résultats également peuvent et doivent s'accomplir encore aujourd'hui. Amen. Elle n'a pas changé la parole de Dieu. Alors le Seigneur aurait changé. Mais ce ne serait plus le Seigneur. Eh oui. Alors il y a en cela au moins deux conditions. Je vais conclure, je ne serai pas trop long. Il suffit pour cela que les prédicateurs soient fidèles à l'annonce du message. Amen. Nous devons l'être. Que également les auditeurs se laissent gagner sans résistance par l'action divine de la parole de Dieu. Amen. L'action du Saint-Esprit. Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Vous vous rendez compte? Eh oui. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Luc 21, verset 33, le ciel et la terre passeront. Alors nous, on avait un passeron dans l'église. Ce que font le regarder. Le ciel et la terre passeront. On se tournait vers lui. Mais le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé. Sa parole ne diminuera plus en puissance. Non. C'est toujours la même. Je prends quelques exemples de réceptivité. Celui de Josias. 2 Rois, chapitre 22, verset 19. Parce que ton cœur a été touché par la parole de Dieu. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Amen. Il avait annoncé une désolation. Et il lui dit maintenant, toi tu ne la verras pas. Ça sera après que tu sois parti. Amen. Pourtant, il y avait une malédiction. Parce que le peuple s'était dressé contre lui, parce que le peuple désobéissait à la parole de Dieu, parce qu'il se moquait de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu sans avoir récolté les fruits un jour. Hein. Eh oui. Alors, il y a aussi des exemples, cette fois-ci à ne pas imiter. Acte 7, verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Ils grinçaient des dents contre lui. Bon, les dentistes, ils ont dû faire une bonne affaire. Hein. Ah oui. Mais ils étaient furieux dans leur cœur. Même s'ils ne le montraient pas, on le sentait. Le grincement de dents était là. On devait faire. Eh oui. Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Puis un dernier texte. Hébreux chapitre 4, verset 2. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'elle trouve de la foi ce matin. Hein? Qu'elle trouve justement un écho dans ton cœur. Que tu puisses la vivre. Hein? Parce que ces réactions négatives nous montrent qu'en réalité, il y a toujours un effet. Vous voyez? Alors, il est important qu'il soit un bon effet et pas un mauvais effet. Amen. Qu'elle ne soit pas rejetée, qu'il n'y ait pas de grincement dedans, qu'il n'y ait pas de rejet, qu'il n'y ait pas, eh bien, quelque part, une opposition ou un cœur hermétique, fermé. J'entends, mais je ne veux pas. D'abord, qui sommes-nous pour dire non à Dieu ? Allons, Seigneur ! Est-ce que j'ai bien réalisé ce que j'ai dit ? Vous comprenez ? Eh oui. Il est souverain, mais il faut qu'il le reste. Amen. Ne jouons pas avec les choses de Dieu. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Elle est et elle demeure. Amen. La parole de Dieu. Merci Seigneur. Tes bontés sont grandes à notre égard. Ta patience également. Merci de nous aider à comprendre, à réaliser Seigneur qu'il y a tout à gagner à recevoir ta parole. Nous en avons lu quelques effets. Il y en a d'autres bien sûr. Mais Seigneur, déjà, ce que nous avons vu est important pour nous. Nous voulons vivre, Seigneur, nous voulons vivre en harmonie avec toi. Nous voulons plaire à ton cœur. Nous voulons te réjouir, Seigneur. Aide-nous à vivre. Seigneur, ces principes bibliques qui sont immuables. Et nous te bénissons de nous avoir encore parlé ce matin. Te louons, Seigneur, parce que tu as trouvé le chemin de nos cœurs un jour. Et nous voulons que tu puisses encore le trouver. Que nous ayons, Seigneur, tout simplement, eh bien, ce bonheur de recevoir ta parole. Qu'elle soit annoncée par un prédicateur, qu'elle soit lue, qu'elle nous, quelque part, Seigneur, vienne jusqu'à nous pour nous révéler, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous voulons que tu sois libre, Seigneur, que tu puisses le faire, Seigneur, comme tu le désires. Et nous, Seigneur, aide-nous à être vrais devant toi. Qu'il y a des choses qui sont dures, Seigneur, à vivre, que nous puissions te le dire. Seigneur, parce que tu ne nous rejetteras pas. Au contraire, tu apprécieras, parce que ce sera la vérité dévoilée. Merci notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. À mardi.